profonde. Et c'est vrai que quand un mot me paraît plus beau que celui qui serait plus usuel, eh bien, j'opte pour le plus beau.
Pourquoi debout? Je vais vous poser une bête question. Enfin, c'est pas la première, mais pourquoi debout?
Alors, Erasme prétendait que le cerveau fonctionnait mieux quand on était debout. Depuis lors, j'ai essayé toutes les positions. Alors, évidemment, je ne vous étonnerai pas en vous disant que je ne suis pas Erasme, mais bizarrement, dans mon cas, mon cerveau marche mieux quand je suis couchée.
Ah ouais.
Par ailleurs, pour écrire, ça ne marche pas du tout. Pour écrire, j'ai besoin d'être assise, tout simplement, sur un tabouret.
Eh ben voilà, ben je crois que c'est clair, mais non. Ouais, on va peut-être essayer debout. Je vais peut-être essayer cette émission debout, tiens. Ça passe. Mais peut-être que debout, c'est mieux. Restez encore avec nous, Amélie Nothon. Nous allons encore discuter, de votre œuvre, parce qu'effectivement, je le disais, hein, ça fait 25 ans que vous avez été publié pour la première fois, et vous publiez ici, hein, Frappe-toi le cœur, c'est votre 26e roman, et pourtant, vous venez de nous l'avouer, vous êtes déjà à votre 90e manuscrit.
Eh bien,
on aimerait en savoir un petit peu plus. Vous savez quoi? On fait une petite pause. C'est le moment 1, 2, 3 soleil de cette émission. Mais on se retrouve tout de suite après ça.
Entrée sans frapper sur la première.
Il y a aussi Amélie Nothon avec nous depuis Paris, en duplex depuis Paris, pour la présentation de son tout nouveau roman, Frappe-toi le cœur. Alors, je le disais, c'est votre 26e roman, depuis 25 ans maintenant. Belle carrière, mais, et on le sait, vous sortez un roman chaque année. Alors, c'est quoi? C'est un rythme que vous vous imposez? C'est une discipline? Ou c'est, le hasard du calendrier, sachant que vous écrivez depuis longtemps déjà et que ces histoires sont là et donc, il y a un moment, il faut bien les publier?
Non, ce n'est évidemment pas un hasard. C'est à la fois une discipline et un phénomène qui me dépasse. Je publie à peine le quart de ce que j'écris. Donc les chiffres parlent. Je viens de publier le 26e, qui est en vérité le 87e. Et je suis en train d'écrire le 90e. Hors de question que je publie tout ça. Ce serait monstrueux de publier tellement, d'autant plus que je vais continuer à écrire. Mais une fois de temps en temps, ça... Il est nécessaire, une fois de temps en temps, que je montre un petit peu de tout ça. Si je le faisais plus souvent, je pense que ce serait absolument dramatique. Si je le faisais moins souvent, je pense que je perdrais purement et simplement la raison. Mais de le faire comme ça, une fois par an, c'est une façon de voir si les gens me suivent toujours jusque-là. Est-ce que oui ou non, je suis complètement devenue cinglée, ou est-ce que vous pouvez encore m'accompagner jusque-là? Bon, là, il semblerait qu'on puisse encore m'accompagner jusque-là.
Gorian.
Vous parliez de Stephen King tout à l'heure, il s'est un peu retrouvé dans la même situation que la vôtre. Lui aussi, il écrivait trop pour être publié régulièrement, il s'est choisi un pseudonyme. Est-ce que vous aussi, vous pourriez avoir la tentation du pseudonyme, publier vos romans supplémentaires sous un autre nom?
Mais pas du tout, parce que je n'ai pas du tout la tentation de les publier. Je trouve que je publie déjà beaucoup, c'est pas ça, j'y ai beaucoup de plaisir, mais c'est déjà très fort d'être tellement lu. Être lu davantage me mettrait en très grand danger psychologique. Le premier but de l'écriture n'est pas la publication. La publication est un petit peu un accident par rapport à l'acte d'écriture, qui est un acte fondamentalement mystérieux, dont personne ne connaît le but, et surtout pas moi.
Mais c'est vous qui choisissez le livre qui est publié chaque année à la rentrée, ou votre éditeur?
Moi et moi seul, au grand dam de mon éditeur qui voudrait le choisir à ma place, mais il faut toujours maintenir son éditeur en situation de supplication.
Mais alors, petite question comme ça, sans être intrusif, comment vous faites? Alors, vous êtes devant votre, je ne sais pas comment ils sont, vos manuscrits, si vous les imprimez, s'ils sont
là. Des cahiers,
là,
c'est des cahiers.
Devant vos cahiers. Vous vous dites, tiens, bête question une fois de plus. Hein. Cette année, c'est la jalousie parce qu'il y avait cette histoire-là, 87e manuscrit. Celle-là, elle me parlait bien, celle-là, elle était chouette. Je vais lui proposer ça à mon éditeur.
La procédure est toujours la même, c'est qu'à la fin de l'hiver, je relis tout ce que j'ai écrit dans l'année, ça fait entre 3 et 4 manuscrits, et c'est à ce moment-là que, entre les manuscrits de l'année, je choisis sans autre critère que le désir, celui que je veux publier. Mmh. Et le désir, c'est très... Il n'y a pas d'explication.
Donc, ça ne vous arrive jamais de ressortir un vieux manuscrit,
jamais.
Justement? Jamais. Pourquoi?
J'en aurais le droit, hein. C'est tout à fait légal d'aller chercher dans ces vieilleries. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours voulu publier quelque chose de récent. Et comme j'ai toujours eu quelque chose de récent que je voulais partager, le besoin ne s'est jamais fait sentir de puiser dans mes vieilleries. Maintenant, si tout à coup, c'était la panne sèche et qu'il ne me venait plus rien, peut-être que j'irais chercher dans mes vieilleries. Mais honnêtement, ça m'étonnerait.
Est-ce que vous sentez de la part de votre éditeur une sorte de pression? Parce que je suppose qu'il veut les lire. Enfin, on dit vieillerie là, parce que voilà, c'est le mot est tombé, mais non, ça reste des écrits, ça reste des manuscrits.
Oui.
Est-ce que vous sentez une certaine pression chez votre
éditeur ? Non, je sens du désir. Je sens du désir, et c'est très bien que je sente du désir. La pression, comment pourrait-il ? Il aurait bien tort d'exercer des pressions sur moi. Il sait que tous les autres éditeurs veulent de moi, donc s'il devenait très désagréable avec moi, ce serait tout...
Pardon, je vous interromps. Votre éditeur serait-il jaloux des autres éditeurs qui...
Oh, jusqu'à présent, franchement, je ne lui en ai donné aucune raison. La fidélité de Pénélope. Mais il sait aussi que pour que je garde la fidélité de Pénélope, il faut qu'il le mérite.
Ben oui, et puis il y a du travail aussi de votre côté. Est-ce que les manuscrits sont retravaillés ? Voilà, donc vous le sortez, c'est le 87e, vous êtes déjà au 90e. Vous dites, ah oui, ça c'était une belle histoire, j'ai envie que ce soit celle-là, je vais proposer celle-là. Est-ce que c'est réécrit ? Est-ce que c'est retravaillé ? Est-ce que c'est repensé ?
C'est-à-dire qu'au moment de l'écriture, avant d'écrire le manuscrit, je l'écris intensément dans ma tête. Une fois qu'il est sur le papier, si vous voyez mes manuscrits, il n'y a pour ainsi dire pas de rature. Alors, évidemment, l'éditeur, lui, essaie de tout réécrire dans ce qu'il appelle du vrai français. Mais il tombe sur un os parce que, avec le temps, je lui ai fait comprendre que ce qu'il appelait du belge, en fait, c'était tout simplement la langue d'Amélie Nothomb. Donc, il avait intérêt à les laisser écrits dans cette langue-là.
Ben oui. Donc, là, ici, votre livre, Frappe-toi le cœur, ça parle de jalousie. Moi, je dirais que jalousie et littérature ont toujours fait bon ménage.
Depuis... un des grands thèmes littéraires. Ça a toujours existé. Déjà dans Homère, la jalousie est très importante. Alors, celui qui a écrit le plus grand monument en l'honneur de la jalousie, c'est Proust. Proust qui était un grand jaloux. Alors, Proust a un point de vue très intéressant pour ce qui est de la jalousie. Il est un grand défenseur de la jalousie. Il dit que la jalousie, c'est 95% de l'amour. Alors, on peut ne pas être d'accord, mais c'est un point de vue intéressant et il le défend très bien.
Ouais, il qualifiait aussi la jalousie de maladie intermittente, Marcel Proust.
Mais oui, parce que même les grands jaloux ont leurs intermittences. Il y a des moments où ça se calme, mais si ça se calme, évidemment, c'est pour mieux revenir.
Oui. Il y a aussi Shakespeare avec Othello. Je crois qu'Othello est peut-être l'un des plus grands, des plus beaux, des plus dramatiques personnages jaloux. Vous, avec votre roman, vous aviez envie d'apporter quelle pierre à cet édifice de la maladie psychologique qu'est la jalousie ?
Mais je voulais montrer que la jalousie était un code qui venait brouiller le langage, que c'était surtout que ça rendait les choses incompréhensibles. L'amour est une maladie qui se passe à deux, la jalousie en fait une maladie qui se passe à trois. Et c'est ce qui rend la jalousie tellement intéressante, c'est qu'on ne sait pas qui est la tierce personne et qu'on comprend encore moins le langage amoureux. Donc pour moi, c'était plutôt comme une méthode pour apprendre un nouveau langage.
Mmh. La pression est sur ses épaules. Gorion Delpature a la dernière question pour vous.
Je vais faire preuve d'une audace incroyable pour Amélie Nothomb. Amélie Nothomb ne vous voit pas. Est-ce que là, en studio à Paris, vous portez votre chapeau sur la tête ?
Non, je porte un magnifique casque que Évariste a placé sur ma tête et qui me va très bien.
C'était une bonne dernière question, je trouve.
Alors, il n'y a pas de mauvaise ou bonne question. Alors, le problème, c'est que vous le savez, maintenant, les radios sont de plus en plus filmées. Moi, je veux une photo, évidemment.
Oui, du casque.
Mais alors, Évariste a pris la photo. Évariste a pris la photo et il vous l'enverra.
Ah, ben voilà, c'est gentil. Allez, Jacques, la dernière question est la pression est sur les épaules de Jacques de Pierrepont.
Un soupçon de jalousie. Qui est Évariste ?
Évariste est un charmant jeune homme qui est en face de moi et avec qui il se passe des choses très troublantes et vous n'en saurez rien, mon cher ami.
Ben voilà, et ça c'est toute la magie de la radio. Merci beaucoup Amélie Nothomb d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et je rappelle la sortie de votre livre, votre 26e roman aux éditions Albin Michel, Frappe-toi le cœur. Merci d'avoir répondu à nos questions.